Alfred de Musset, La confession d'un enfant du siècle, cinquième partie, chapitre 7. Le lendemain à midi, par un beau soleil de décembre, un jeune homme et une femme qui se donnaient le bras traversèrent le jardin du palais royal. Ils entrèrent chez un orfèvre, où ils choisirent deux bagues pareilles, et, les échangeant avec un sourire, en mirent chacun une à leur doigt. Après une courte promenade, ils allèrent déjeuner aux frères provençaux, dans une de ces petites chambres élevées, d'où l'on découvre dans tout son ensemble l'un des plus beaux lieux qui soient au monde. Là, enfermés en tête-à-tête, quand le garçon se fut retiré, ils s'accoudèrent à la fenêtre et se serrèrent doucement la main. Le jeune homme était en habit de voyage. À voir la joie qui paraissait sur son visage, on l'aurait pris pour un nouveau marié, montrant pour la première fois à sa jeune femme la vie et les plaisirs de Paris. Sa gaieté était douce et calme, comme l'est toujours celle du bonheur. Qui eût eu de l'expérience y eût reconnu l'enfant qui devient homme, et dont le regard plus confiant commence à raffermir le cœur. De temps en temps, il contemplait le ciel, puis revenait à son ami, et des larmes riaient dans ses yeux. Mais il les laissait couler sur ses joues et souriait sans les essuyer. La femme était pâle et pensive. Elle ne regardait que son ami. Il y avait dans ses traits comme une souffrance profonde qui, sans faire d'efforts pour se cacher, n'osait cependant résister à la gaieté qu'elle voyait. Quand son compagnon souriait, elle souriait aussi. Mais non pas toute seule. Quand il parlait, elle lui répondait, et elle mangeait ce qui lui servait. Mais il y avait en elle un silence qui ne semblait vivre que par instant. À sa langueur et à sa nonchalance, on distinguait clairement cette mollesse de l'âme, ce sommeil du plus faible entre deux êtres qui s'aiment et dont l'un n'existe que dans l'autre et ne s'anime que par écho. Le jeune homme ne s'y trompait pas et en semblait fier et reconnaissant, mais on voyait à sa fierté même que son bonheur lui était nouveau. Lorsque la femme s'attristait tout à coup, et baissait les yeux vers la terre, il s'efforçait de prendre, pour la rassurer, un air ouvert et résolu. Mais il n'y pouvait pas toujours réussir et se troublait lui-même quelquefois. Ce mélange de force et de faiblesse, de joie et de chagrin, de trouble et de sérénité, eût été impossible à comprendre pour un spectateur indifférent. On eût pu les croire tour à tour les deux êtres les plus heureux de la terre et les plus malheureux. Mais, en ignorant leur secret, on eût senti qu'ils souffraient ensemble, et, quelle que fût leur peine mystérieuse, on voyait qu'elles avaient posé sur leur chagrin un sceau plus puissant que l'amour lui-même, l'amitié. Tandis qu'ils se serraient la main, leurs regards restaient chastes. Quoiqu'ils fussent seuls, ils parlaient à voix basse. Comme accablés par leurs pensées, ils posèrent leurs fronts l'un contre l'autre, et leurs lèvres ne se touchèrent pas. Ils se regardaient d'un air tendre et solennel, comme les faibles qui veulent être bons. Lorsque l'horloge sonna 1 heure, la femme poussa un profond soupir et, se détournant à demi, « Octave, dit-elle, si vous vous trompiez. » « Non, mon ami, répondit le jeune homme, soyez-en sûr, je ne me trompe pas. Il vous faudra souffrir beaucoup, longtemps peut-être, et à moi toujours, mais nous en guérirons tous deux, vous avec le temps, et moi avec Dieu. Octave, Octave, répéta la femme, êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? Je ne crois pas, ma chère Brigitte, que nous puissions nous oublier, mais je crois que dans ce moment, nous ne pouvons nous pardonner encore. Et c'est ce qu'il faut cependant à tout prix, même en ne nous revoyant jamais. Pourquoi nous reverrions-nous pas? Pourquoi, un jour? Vous êtes si jeune. Elle ajouta avec un sourire, à votre premier amour, nous nous reverrons sans danger. Non, mon ami, car, sachez-le bien, je ne vous reverrai jamais sans amour. Puisse celui à qui je vous laisse, à qui je vous donne, être digne de vous. Smith est brave, bon et honnête. Mais, quelque amour que vous ayez pour lui, vous voyez bien que vous m'aimez encore. Car si je voulais rester ou vous emmener, vous y consentiriez. C'est vrai, répondit la femme. Vrai? Vrai? Répéta le jeune homme, en la regardant de toute son âme. Vrai? Si je voulais, vous viendriez avec moi. » Puis il continua doucement. « C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais nous revoir. Il y a de certains amours dans la vie qui bouleversent la tête, les sens, l'esprit et le cœur. Il y en a parmi tous un seul qui ne se trouble pas, qui pénètre, et celui-là ne meurt qu'avec l'être dans lequel il a pris racine. Mais vous m'écrirez cependant ? Oui, d'abord pendant quelque temps, car ce que j'ai à souffrir est si rude que l'absence de toute forme habituelle et aimée me tuerait maintenant. C'est peu à peu, et avec mesure, que, n'étant pas connu de vous, je me suis approché, non sans crainte, que je suis devenu plus familier qu'enfin. Ne parlons pas du passé. C'est peu à peu que mes lettres seront plus rares, jusqu'au jour où elles cesseront. Je redescendrai ainsi la colline que j'ai gravie depuis un an. Il y aura là une grande tristesse, et peut-être aussi quelques charmes. Lorsqu'on s'arrête au cimetière, devant une tombe fraîche et verdoyante, où sont gravés de noms chéris, on éprouve une douleur pleine de mystère, qui fait couler des larmes sans amertume. C'est ainsi que je veux quelquefois me souvenir d'avoir été vivant. » La femme, à ces dernières paroles, se jeta sur le fauteuil et sanglota. Le jeune homme fondait en larmes, mais il resta immobile, et comme ne voulant pas lui-même s'apercevoir de sa douleur. Lorsque les larmes eurent cessé, il s'approcha de son ami, lui prit la main et la baisa. « Croyez-moi, dit-il, être aimé de vous, quel que soit le nom que porte la place qu'on occupe dans votre cœur, cela donne de la force et du courage. N'en doutez jamais, ma Brigitte. Nul ne vous comprendra mieux que moi. Un autre vous aimera plus dignement. Nul ne vous aimera plus profondément. Un autre ménagera en vous des qualités que j'offense. Il vous entourera de son amour. Vous aurez un meilleur amant. Vous n'aurez pas un meilleur frère. Donnez-moi la main et laissez rire le monde d'un mot sublime qu'il ne comprend pas. Restons amis et adieu pour jamais. Quand nous nous sommes serrés pour la première fois dans les bras l'un de l'autre, il y avait déjà longtemps que quelque chose de nous savait que nous allions nous unir. Que cette part de nous-mêmes, qui s'est embrassée devant Dieu, ne sache pas que nous nous quittions sur terre, qu'une misérable querelle d'une heure ne délie pas notre éternel baiser. » Il tenait la main de la femme. Elle se leva, baignée encore de larmes, et s'avançant devant la glace avec un sourire étrange, elle tira ses ciseaux et coupa sur sa tête une longue tresse de cheveux, puis, d'un instant, ainsi défigurée et privée d'une partie de sa plus belle parure, elle la donna à son amant. L'horloge sonna de nouveau. Il fut temps de descendre. Quand ils repassèrent sous les galeries, ils paraissaient aussi joyeux que lorsqu'ils y étaient arrivés. « Voilà un beau soleil, » dit le jeune homme. « Et une belle journée, » dit Brigitte. Et que rien n'effacera là. » Elle frappa sur son cœur avec force. Ils pressèrent le pas et disparurent dans la foule. Une heure après, une chaise de poste passa sur une petite colline, derrière la baraille de Fontainebleau. Le jeune homme y était seul. Il regarda une dernière fois sa ville natale dans l'éloignement et remercia Dieu d'avoir permis que, de trois êtres qui avaient souffert par sa faute, il ne restât qu'un malheureux.